Chapitre 81. Soulagé que le sortilège de transfert ait été activé, Bannon s'inquiétait à présent pour ses amis. Nathan et Elsa avaient-ils réussi à fuir à temps la plaine, qui devait être un enfer si on se fiait au froid qui montait de la falaise et du fleuve? Alors que de la buée se formait devant sa bouche dès qu'elle expirait, Lila, malgré ses vêtements minimalistes, ne semblait pas affectée par la température polaire. Malgré ces conditions extrêmes, le jeune escrimeur ruisselait de sueur.
« Je m'appelle Bannon Farmer et je suis un aventurier !»
dit-il à voix haute pour se redonner du cœur au ventre. Bien que toutes les galères soient prises dans les glaces du chasse-corbeau, les Norokai ne renonçaient pas. Sans se soucier de leurs camarades morts en tombant dans le vide ou gelés sur la paroi de granit, ils récupéraient des échelles de siège dans les navires et se lançaient dans la périlleuse ascension. Partout, la glace se lézardait, et des pans entiers se détachaient de la paroi pour finir au pied de la falaise. Comme s'ils ne s'en apercevaient pas, les pillards grimpaient avec un acharnement qui leur aurait valu l'admiration de Bannon dans d'autres circonstances. Prêt à se battre, le jeune escrimeur et sa compagne suivirent des yeux la progression des esclavagistes.
« Douce mère la mer, Lila, on ne peut pas attendre sans rien faire qu'ils nous submergent !»«
Bien raisonné. Descendons et barrons-leur le chemin. »
La Moracite se laissa glisser le long de la paroi en direction d'une plateforme de monte-charge encore intacte. De la haute voltige, cette manœuvre.
« La glace !»
s'étrangla Bannon.
« Il n'y en a pas partout. Accroche-toi aux saillies rocheuses et suis-moi »
La Moracite leva les yeux vers son compagnon.
« Sauf si tu préfères assister au spectacle de là-haut ?»«
Non, je me battrai à ton côté !»
Histoire d'avoir les mains libres, Bannon rengaina solide. Revenus dans la gueule des tunnels, les défenseurs recommencèrent à bombarder les esclavagistes avec tout ce qui leur tombait sous la main. Au sommet de la falaise, les trois sorciers étaient de retour aussi, et ils utilisaient leurs dons pour détacher des blocs de glace du granit et les propulser sur les Norokai.
Mais que fichaient donc Quentin et Damon ?
Bien plus puissants que ces détenteurs du don, ils auraient pu faire la différence pour Eldakar. Le sort de transfert ayant cessé d'agir, la glace commençait à fondre sous les assauts du soleil, et la brume qui montait du fleuve limitait la visibilité. Sous les yeux de Bannon, une dizaine de pillards glissèrent et tombèrent, mais ça ne découragea pas les autres, en particulier celui qui menait l'attaque. Un colosse barbu aux épaules garnies d'implants, des os pointus et aux phalanges renforcées de fer. Un albinos le suivait, la peau constellée de ce qui semblait être des centaines de marques de minuscules morsures.
« Mon roi calvaire, c'est froid, très froid. Mon rêve, tu te souviens? Je t'avais prévenu. »
Le souverain barbu baissa les yeux sur l'albinos.
« Tu avais raison, crayeux. Mais tu as aussi rêvé d'une victoire. La glace, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, c'est Eldakar. »
Bannon se laissa tomber sur la plateforme visée. Elle était encore couverte de glace, mais en se retenant à une corde, il put se camper à côté de Lila. Ensemble, ils se préparèrent à accueillir les guerriers à gueule de serpent. Le sang en ébullition, Bannon dégaina solide. Son épée courte au poing, Lila eut un sourire mauvais.
« Ces Norokai sont plus laids que les soldats d'Outros, mais ils devraient être plus faciles à tuer. »
Sur d'autres plateformes, des défenseurs avaient déjà engagé le combat. Dans le lot, Bannon reconnut le jeune peintre audacieux qui avait mis la touche finale à la rune. Posté sur une plateforme, en compagnie de deux autres types, il défendait l'entrée du tunnel principal, juste au-dessus. Malgré leur courage, ces trois combattants inexpérimentés et mal armés ne tiendraient pas longtemps. Blessé au flanc, l'un d'eux fut jeté dans le vide par une guerrière qui prit bientôt pied sur la plateforme avec deux autres pillards. À coups de couteau, les défenseurs les repoussèrent, mais six autres esclavagistes les remplacèrent. Sans dire un mot, le jeune peintre et son compagnon se regardèrent, puis hochèrent la tête. Très calmes malgré leurs blessures, ils coupèrent les cordes qui retenaient la plateforme. En même temps que leurs bourreaux, les deux héros tombèrent dans le vide et entraînèrent avec eux une bonne dizaine de fourmis accrochées à la paroi. À ce spectacle, Bannon rugit comme un fauve.
« Moi, j'en ai assez d'attendre !»
Sans se soucier de la pique vertigineux, il abandonna la plateforme et s'engagea sur une échelle, la descendant jusqu'à ce qu'il ait atteint un autre monte-charge immobilisé dans le vide. Un peu plus bas, le roi calvaire et son repoussant compagnon continuaient leur progression. Quand il vit le souverain éventrer un défenseur sans presque y penser, Bannon comprit qu'il venait de repérer l'ennemi que le destin lui réservait. Le chef des Norokai regarda le jeune escrimeur comme s'il était un insecte, puis sa bouche mutilée dessina un affreux sourire. Modifiant sa trajectoire, il se dirigea vers la plateforme où se tenait l'insignifiant humain. Noyé de sueur parce qu'il bouillait à l'intérieur, Bannon n'était plus accessible à la peur. Sous ses pieds, le bois couvert de glace à demi fondu glissait terriblement. Comme s'il avait des ventouses en guise de pieds et de mains, Calvert escaladait avec une aisance déconcertante. Bannon se souvint de ce jour maudit, dans la crique. Alors que les Norokai le tiraient vers leur canot, ce pauvre Yann s'était sacrifié pour lui. Tout ça pour mener une vie de souffrance achevée dans le sang. Arenda Surbel, ancien cultivateur de choux, avait commencé son œuvre vengeresse. Aujourd'hui, il allait la continuer.
« Attention, mon gars !»
cria Lila en se réceptionnant à côté de son protégé. Bannon tourna la tête. S'accrochant d'une main à la plateforme, un pillard musclé comme un bûcheron tentait de lui saisir une cheville avec l'autre. Visant entre les deux yeux, le jeune homme décocha un formidable coup de pied dans l'horrible gueule de l'esclavagiste. Sous la violence de l'impact, la mâchoire inférieure du guerrier, déjà affaiblie par les mutilations, se détacha et vola dans les airs, laissant à l'air libre sa langue noire et le fond rougeâtre de sa gorge. Avec l'énergie du désespoir, le Norokai referma les doigts sur le pied gauche de Bannon, mais un nouveau coup précis et puissant l'envoya basculer dans le vide. Leur tranchant les doigts, Lila décrocha deux autres esclavagistes qui tentaient de prendre pied sur la plateforme. Le roi Calvert tenait toujours à relever le défi de Bannon. L'albinos derrière lui, il s'accrocha au bord de la plateforme et se hissa dessus à une vitesse ahurissante. Le jeune escrimeur frappa. Mais son adversaire bloqua le coup d'un bras, la lame rebondissant sur les cylindres de fer qui couvraient ses phalanges. Ébranlé par l'impact, le souverain siffla comme un serpent sur le point de mordre, puis il se campa face au jeune impudent qui osait lui résister. Calvert maniait d'un seul bras une épée si imposante que Bannon aurait eu du mal à la soulever avec les deux mains. De son bras libre, le roi tenta de saisir le poignet de son adversaire qui balaya l'air avec son épée. Se jetant en arrière, le Norokai évita de justesse un coup qui lui aurait ouvert en deux le torse. Comme toujours dans ces cas-là, la vision périphérique de Bannon se teinta de rouge. Répétant sa frappe, il entailla la poitrine du roi qui ne broncha pas mais riposta à la vitesse de l'éclair. Au dernier moment, le jeune escrimeur parvint à dévier la lame qu'il aurait à coup sûr éventrée. De son côté, Lila venait de décapiter un pillard. À cause de l'excès de poids, les cordes gelées de la plateforme grincèrent sinistrement. Sous l'effet du soleil, la glace fondait de plus en plus et le brouillard se dissipait. Partout des blocs d'une sorte de gadou se détachaient du granit, entraînant avec eux des assaillants. Mais ceux qui utilisaient des échelles de siège avaient très bien progressé. Du coin de l'œil, Bannon vit que les premiers atteignaient l'entrée des tunnels les plus bas. Au pied de la falaise, la gangue de glace se fracturait, libérant les galères de leur étreinte. Mais Bannon ne voyait plus qu'une chose. Calvert, roi des maudits esclavagistes et principal responsable d'une longue liste de mises à sac et de tueries. Ce monstre régnait-il déjà quand Yann avait été capturé une dizaine d'années plus tôt? Même si la réponse se révélait négative, il n'était pas meilleur que son immonde prédécesseur. Aucun des Norokai, homme comme femme, ne valait la corde pour le pendre. À la place de Bannon, Nichi ou Nathan auraient carbonisé tous les assaillants avec du feu de sorcier. Lui, il allait devoir se contenter de son épée. Eh bien, solide, se gorgerait du sang du tyran barbu.
« Le calvaire, c'est toi qui vas le vivre !»
lâcha Bannon. Contre-attaquant par surprise, il força le Norokai à reculer jusqu'au bord de la plateforme.
« Mon calvaire !»
s'écria l'albinos en grimpant à son tour sur le précaire monte-charge. Un brouillard rouge devant les yeux, Bannon frappa avec l'intention de décapiter le roi, qui esquiva à la dernière seconde. Emporté par son élan, solide décrivit un grand arc de cercle et coupa net la corde de soutien d'un des coins de la plateforme, qui s'inclina dangereusement. Avec un cri de rage, Calvert glissa, bascula dans le vide et réussit par miracle à se rattraper, ses ongles s'enfonçant dans le bois. Déséquilibré, Bannon glissa aussi, mais il se retint à une corde intacte. Se lâchant d'une main, Calvert la referma sur la cheville de sa proie. Bien entendu, Bannon frappa de l'autre jambe, toucha sa cible plusieurs fois, mais il ne parvint pas à faire lâcher prise au Norokai. Alors que la plateforme s'inclinait de plus en plus, Lila ouvrit la gorge d'un nouvel esclavagiste qui tomba en arrière dans un geyser de sang. Sur la paroi, on n'était pas très loin d'une avalanche. D'ailleurs, de l'eau recommençait à couler des gros conduits et du toboggan où le courant inversé luttait pour se rétablir. Une nouvelle fois, Bannon balança son pied dans la face immonde de Calvaire.
« Crève, charogne !»
Le nez embouilli du roi pissait le sang, mais son regard brillait toujours de rage et de détermination.
« Mon Calvaire !»
gémit l'albinos. Manquant tomber 10 fois, il parvint à rejoindre son roi et tenta de le retenir par les épaules. D'un coup de pied, Bannon envoya la Vorton valdinguer dans le vide. En beuglant, il disparut de la vue du jeune escrimeur et de son roi.
« Crieux !»
cria celui-ci, le désespoir faisant vibrer sa voix. Bannon décocha un nouveau coup de pied. Cette fois, la tête de Calvaire partit en arrière et il lâcha prise, libérant enfin la cheville du jeune escrimeur. Il tomba à la suite de l'albinos. Bannon sentit qu'il glissait et tenta de se retenir. Un double bruit sourd lui apprit que Calvaire et son âme damnée avaient atterri sur une autre plateforme, sûrement pas assez éloignée pour qu'il se soit fait grand mal. Trop loin pour saisir de nouveau une corde, Bannon lâcha son épée qui glissa sur le bois couvert de glace à moitié fondue et plongea dans l'abîme. Inexorablement, le jeune escrimeur suivrait le chemin emprunté par les deux norocailles. Désespéré, il enfonça ses ongles dans le bois, mais rien n'y ferait. Lila lui saisit un poignet au vol, retardant l'inéluctable. Sur une peau couverte de sang, une paume poisseuse du même fluide ne pouvait assurer une prise.
« Accroche-toi à moi !»
cria la Moracite. Bannon lui prit à son tour le poignet, mais il comprit vite que ça ne servirait à rien. Les lois de la physique étant ce qu'elles étaient, son poids l'entraînait vers le bas et sa peau glissante n'arrangeait rien.
« Non, non, non !»
cria Lila quand il lui échappa. Comme au ralenti, Bannon vécut pleinement chaque instant de sa chute. Alors qu'il lui semblait avoir tout le temps du monde pour contempler le granit, détaillant le moindre grain, il essaya de se rattraper à quelque chose, rata de peu les barreaux d'une échelle et prit de plus en plus de vitesse. Soudain, il s'écrasa sur le dos, certain que sa dernière seconde avait sonné. Mais quelque chose avait amorti sa chute. Des cadavres de défenseurs et de pillards entassés sur une plateforme encore intacte. Des cadavres et quelques miraculés, dont le roi Calvaire et son albinos de malheur. Alors que les deux nuisibles se relevaient, Bannon chercha en vain son épée.
« Capturez-le !»
beugla le roi. Gueule grande ouverte, des norocailles fondirent sur le jeune escrimeur.